Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu soient avec chacun d'entre nous. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas qui a inspiré Claude en mettant sa chemise, sa cravate, hein, parce que on va parler de Béthanie et de Marthe et Marie. Qu'est-ce qui t'a dit ça, toi ? Où c'est que t'as été voir ça ?
Le Seigneur nous joue toujours. Je vous assure, mes bien-aimés, comme c'est merveilleux. Quand le Saint-Esprit est en action, je dis. Et tout à l'heure, je viens le voir dans le bureau, je n'ai pas posé la question. Je dis, avant que je lui laisse la place, je vais simplement mentionner cela.
D'accord. Merci.
C'est extraordinaire. Merci, Jésus.
L'inspiration va jusqu'à la cravate. Oui, mes frères et sœurs, parce que Marthe et Marie, de Béthanie, ont une très grande leçon à nous apprendre. Il nous arrive, nous aussi, je suis persuadé que cela est assez souvent chez vous, que nous passons par des moments de grande joie spirituelle où on dit « Alléluia », on frappe des mains et on chante des cantiques de joie et de victoire. Et des fois, dans la même journée, on passe par des moments de dépression, d'abattement et de tristesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Bien. Alors, je vous propose d'introduire le sujet par un verset. C'est pas difficile, un verset. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, verset 35, je lis ceci, cette phrase. « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. » On s'arrête là. Il y a dans ce verset-là, mes frères et sœurs, tout le secret qu'ils ont découvert à Béthanie. Ce même jour, je reprends, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et je me disais, si le Saint-Esprit a voulu qu'il soit écrit ce même jour, avec un détail, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord, ce même jour. Et si nous découvrons ce qui s'est passé ce jour-là, puisque c'est précisé, le Saint-Esprit le dit, ce même jour, le jour où il s'est passé des événements formidables. Si j'imagine le chapitre 4 de l'Évangile de Marc, ce même jour, mes frères et sœurs, quelle journée bénie pour les apôtres, quelle journée de victoire, de bonheur. L'Écriture nous dit que dans cette journée, Jésus, dans sa grâce, a fait de nombreux miracles, dans la même journée. Dans la même journée, il a chassé les démons, et les démons sont partis. Dans la même journée, il a donné des paraboles et il a enseigné. Il a parlé une parole à chacun, selon ce qu'ils étaient capables de recevoir, c'est écrit. Il a parlé de telle façon que les gens disaient, jamais homme, merci, n'a parlé comme cet homme. Donc c'est une journée où il y avait eu des miracles, vous aimez ? Des délivrances, vous aimez ? Des victoires, et c'est une journée où l'on chante. Et en plus, si je lis attentivement ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que la foule était tellement dense que Jésus était obligé de prendre un certain recul pour pas être pressé par la foule. Et c'est tellement vrai que dans l'Évangile selon Jean, il est dit qu'à un certain moment, la foule voulait le faire roi. D'après les sondages d'opinion de l'époque, Jésus avait 100% des voix. Quelle journée ! Et puis, en plus, mes frères et sœurs, si vous lisez tout le chapitre 4, vous allez découvrir quelque chose de fantastique. Jésus leur a fait une promesse. Il leur a dit, passons, allez, on tourne la page, on va ailleurs. Et ils se sont certainement dit, après tout ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Qu'est-ce que ça va être extraordinaire? C'est fantastique. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Alors ils ont certainement regardé la mer, et ils ont dit, oh, comme elle est calme. Ils ont regardé le ciel, et ils ont dit, oh, comme il est beau. Ils ont regardé leur expérience personnelle. Nous, les pêcheurs, dit-il, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la bonne occasion de pouvoir travailler. Nos compétences sont là. Et mes frères et sœurs, c'était tellement beau cette journée-là que d'autres sont montés dans d'autres barques pour suivre Jésus. Donc, tous les indicateurs étaient au beau fixe. Et il arrive que dans notre vie chrétienne, dans certaines journées, tout soit au beau fixe et qu'on a envie de chanter que la vie est belle quand on est sauvé. Merci. C'est vrai. Et c'est ce jour-là, voyez-vous, frères et sœurs, où ça s'est terminé en chantant, avec une perspective formidable, passant de l'autre bord, avec une promesse. Là où est Jésus. Dans le petit foyer de Béthanie, Jésus aimait y aller. Il est écrit, Jésus aimait Marie et Lazare. Il les aimait tellement que lorsqu'il y a eu, je vais employer le mot, une tempête à Béthanie. Une tempête. Ce foyer qui était tellement habitué à recevoir Jésus, à vivre en sa compagnie, dans sa communion, à l'accueillir comme faisait Marthe, peut-être avec agitation, mais elle le faisait sincèrement, à l'écouter comme le faisait Marie. Tout était beau, tout était extraordinaire. Seulement tout à coup, il y a eu une tempête dans la maison de Béthanie. Vous la connaissez, la tempête ? La maladie est venue. Mes frères et sœurs, ça, nous le savons tous, ça nous touche, ou ça touche nos enfants, ou tous ceux qui nous côtoient, on est tôt ou tard touchés par la maladie. C'est pas vrai ? Qui n'a jamais été malade, qui lève la main ? Voilà, votre silence me parle. Qui a été déjà malade une fois dans sa vie ? Levez la main. Et les autres qui n'ont rien fait, ils sont ni malades, ni en bonne santé, ils sont dans le milieu, alors c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Non, il arrive des moments où on est frappé, alors que jusqu'à maintenant, on était heureux, comme un Béthanie était heureux d'avoir la présence de Jésus. Et puis la maladie est venue, la tempête est venue. Celui que Jésus aimait, Lazare, est malade. Alors, ils ont fait comme vous et moi nous faisons. Si l'un parmi nous est malade, on prie. Et nous, les chrétiens, nous mettons en pratique ce texte de l'Écriture qui dit, nous appelons les anciens de l'Église. C'est ça, hein ? Si quelqu'un est malade, qu'il prie. La prière est essentielle. Alors, elles ont fait, toutes les deux, Marthe et Marie, elles ont fait cette même prière. Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est tout. Et l'Écriture nous dit que la tempête est devenue un ouragan parce que Jésus n'a pas bougé, Jésus n'a pas fait un pas, la maladie s'est aggravée, tellement aggravé que Lazare est mort. Et il était tellement mort qu'il a fallu s'en débarrasser, le mettre à l'extérieur. C'est pas simplement un petit coup de vent, c'est pas simplement un tourbillon, c'est l'orage. Tout s'effondre. Celui que tu aimes est malade et tu ne fais rien. Tu ne réponds à rien. Alors quand elle revient vers Jésus, quand Jésus vient vers elle, 4 jours après, elle lui fait cette parole, « Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Vous l'avez remarqué, ça ? Seulement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de subtilité dans ce texte de Jean, chapitre 11. « Si tu avais été là, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. » Parce que Marthe et Marie se souviennent que Jésus avait dit, « Si quelqu'un m'aime, je ferai ma demeure, le Père fera ma demeure, la demeure chez vous. » Donc, on sera là. Et quand elle dit, « Si tu avais été là, » voyez-vous, il y a dans le cœur de Marthe quelque chose qui... qui ne marchent pas par rapport à la parole, voyons Seigneur. Puisque tu as dit que tu étais là et tu n'étais pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Et elle répond, et c'est là qu'il y a quelque chose d'important, elle répond, je sais. Je sais qu'il ressuscitera. Savez-vous pourquoi ? Parce que je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Et derrière ça, il y a un petit reproche. Très bon. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. On est venu vers toi, on a fait cette prière. Celui que tu aimes est malade. Et tu n'as certainement pas prié, puisqu'il est mort. Parce que nous, on sait que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu t'entend. Et vous, la confusion qu'il pouvait y avoir dans la tête de Marthe et de Marie, et ça nous évite de les juger. Et le Seigneur lui a dit maintenant, je vais ressusciter, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et l'Écriture nous montre que la grâce de Dieu a agi de telle façon que Lazare est sorti du tombeau par la parole de Jésus. Le croyez-vous ? Ceci pour vous dire, mes frères et sœurs, que c'est presque normal qu'il arrive que dans nos familles, dans nos maisons, nous ayons ces nouvelles terribles qu'on ne s'attendait certainement pas à recevoir. Celui que tu aimes, Seigneur, voyons, tu sais qu'on te reçoit chez nous, tu sais tout ce que l'on fait pour toi, et voilà, voilà la mort qui vient, et tu n'étais pas là, et la mort qui vient, et tu n'as pas prié, alors que nous on sait que si tu pries, Dieu t'exauce. Et si il est mort, c'est que tu n'as pas prié. Voyez-vous ce que le Satan peut essayer de mettre dans ce si. Moi je dis que c'est le si. C'est le cri du serpent, il siffle. C'est la tempête. Et je pense que, un peu comme les apôtres, ce même jour, le jour où tout était beau, le jour où tout allait bien, une claque énorme est arrivée. La tempête. L'Écriture nous dit, la tempête, je ne vais pas la lire, vous connaissez le texte, n'est-ce pas ? La tempête a soufflé. Il s'est levé, l'Écriture nous dit, un grand vent. Et vous remarquerez qu'il y a là une réponse à une première question. Frères et sœurs, quel jour la tempête a soufflé chez les apôtres ? Le jour de la victoire. Le jour où ils chantaient, nous nous réjouissons dans le Seigneur, alléluia ! Et quelques heures après, ils chantaient, nous périssons dans le Seigneur. Ça arrive. Et ne laissez pas Satan vous accuser, ou certains qui vous disent, vous savez, faut que vous changiez d'église parce que ça et ça, cette maladie-là, cette souffrance-là, ça c'est satanique. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Si Dieu était là, oui, il a toujours été là, car quand il a entendu les nouvelles, il a dit à ses apôtres, c'est pas la mort. Donc, frères et sœurs, si vous avez eu cette semaine, ou si aujourd'hui vous êtes bousculés, par une difficulté morale, physique, chez vous, en vous, avec vos enfants, qui que ce soit, ne baissez pas les bras. Il le sait, il voit, et il veut vous délivrer. C'est ce Dieu-là que nous servons, mes frères et sœurs. Quand la tempête est-elle arrivée au moment de la grande victoire? Et moi j'ai remarqué, vous l'avez remarqué aussi, que certainement, quand on a souvent belle victoire, il nous arrive le lendemain une tuile. Mais alors, une tuile, on s'assoit, on dit, celle-là, je n'ai pas vu venir, pas vrai hein? Regardez, Élie, pas n'importe qui, Élie, prophète, hein? Qui fait tomber le feu du ciel, et qui tue au nom de Dieu tous ces faux prophètes qui rendent le peuple esclave. Et Dieu lui donne non seulement le feu du ciel, mais la force de combattre, la force de lutter, la force de remporter la victoire. Et quand il agit, le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, nous nous réjouissons. Et le lendemain, Élie reçoit une nouvelle. Aujourd'hui, on dirait un email, un mail, avec pour titre Jézabel, qui lui dit, Oui, maintenant il va t'arriver ce que tu as fait au faux prophète. Il va t'arriver cela. Voyez-vous la claque, frères et sœurs. Oh, sur le Carmel, c'est extraordinaire, le feu descend. Mais le lendemain, c'est plus Carmel, c'est la Gamelle. Et elle est pleine. Ils s'attendaient à tout sauf à ça. Alors, mes frères et sœurs, ce texte, ce même jour, sur le soir, c'est pour nous donner la force de nous barricader contre l'ennemi quand il nous arrive une chose étrange que nous n'avons pas pu venir. C'est ce qui est arrivé chez Marc, c'est ce qui est arrivé chez Marie. Et si ces choses sont écrites dans la Bible, elles sont écrites pour notre instruction. Première question, quand, mes frères et sœurs, quand suis-je en danger au moment où j'ai le plus de victoires? Parce que si je me repose sur mes victoires, je ne veille plus, et il y a quelqu'un qui ne veille pas pour me faire tomber, c'est Satan. Quand? Eh bien oui, le même jour, le jour de la victoire. Il me dirait, oui, mais c'est vrai, frère, il y a des choses que je comprends pas. Tenez, Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Donc ils ont suivi Jésus. Vous me suivez? Et en suivant Jésus, ils se sont trouvés où? Dans la tempête. Et dans la tempête, je suis certain que tous les 12 ont dû se dire, mais qui a eu l'idée de nous mettre sur la mer ce jour-là? Mais qui a eu cette idée-là? Eh bien, cette idée-là, c'est Dieu. Parce que mes frères et sœurs, Satan ne fait pas ce qu'il veut. Quand on est enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu contrôle. Dieu contrôle à la fois la densité et la limite. Dieu a permis, Jésus a permis que Lazare soit malade et mort. Jésus n'est pas venu tout de suite parce que Dieu avait un autre plan. Mes frères et sœurs, ne nous enfermons pas dans le présent et rappelons-nous que la première réponse à la question « Quand je suis dans la joie ?» Oui, je reste dans la joie et je bénis Dieu, mais je dois faire attention de ne pas périr. C'est ce que disaient les apôtres. Nous périssons. Parce que quand on est éprouvé comme ça, on aurait tendance à oublier tout ce que Dieu nous a fait. Pas vrai? C'est pour ça que le psaume a raison de dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Maintenant, frères et sœurs, s'il nous arrive des choses qui ne sont pas prévues, ne baissons pas les bras et ne nous décourageons pas. Oui, c'est vrai, Jésus a dit, je suis le bon berger, et mes brebis qui me suivent, qu'est-ce qu'elles trouvent? De verts pâturages. Alors les apôtres, ils ont suivi Jésus, qui leur a dit, passons de l'autre bord. Est-ce qu'ils ont trouvé de verts pâturages? Ils ont trouvé un grand orage. C'est pas vrai? Alors, certains incrédules diront, tu vois bien que ton bon Dieu, hein, sa parole, la Bible, mais te fie pas à ça, tu vois bien que ça ne correspond pas. Regarde, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, j'ai chargé. Eh oui. Car vous allez trouver du repos. Tu parles du repos, c'est on se trouve en pleine tempête parce qu'on t'a obéi. Ben, je comprends pas, Seigneur. Tu nous as quand même dit de passer de l'autre bord, et pourquoi ça nous arrive, ça? Pourquoi mon mari est-il malade? Pourquoi ma femme est-elle décédée? Mais enfin, pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi? Ça arrive. Tu contrôles tout? Et le Seigneur lui dit, oui, je contrôle tout. Je suis sur mon trône et je règne. Et sache bien que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Sache-le, Marthe. Sache-le, Marie. Quand Marthe a compris ça, elle est allée vers sa sœur, elle lui a dit, Marie, non pas j'ai une réponse à toutes mes questions, mais Marie, le maître est ici, et il te demande. Ça, mes frères et sœurs, c'est au temps présent, et c'est ce matin, que Dieu vous dit, à vous qui êtes comme Marie, et Marc, bien sûr, dans la tempête, dans des choses, des événements que le Seigneur permet, que vous ne comprenez pas, le maître est là. Ce matin, il veut te parler. Déjà au début du culte, par les cantiques, il t'a parlé. Par les introductions de Pasteur Célestine et de Claude Gentil, il vous a parlé. par notre chère sœur qui a donné son témoignage relativement court. Il nous a parlé longuement. Pas vrai? Et maintenant, eh bien, avec la Bible, nous arrivons à la conclusion, ce maître, qui est le maître de la tempête, maître du temps, qui contrôle tout, il t'appelle ce matin, il te demande toi qui es dans la tempête, toi dont la voix de Satan dit, tu es venu au culte, mais n'en fais pas trop, tu sais, regarde, rien qui correspond à ça. Regardez, mes frères et sœurs, un pauvre homme qui a un fils unique, il amène son fils pour être délivré, et les apôtres n'ont pas pu. Première déception. Et quand il va voir Jésus, Jésus lui dit, « Amen, ici ton fils. » Il obéit à Jésus. Et pendant qu'il obéissait à Jésus, il y a eu une crise. Une crise encore plus grande qu'avant. L'orage est arrivé. La tempête a soufflé, mais Jésus a triomphé. C'est le même Jésus qui est avec nous et qui nous a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Souvenons-nous de sa mort, de sa vie, sa puissance, mais aussi surtout de sa résurrection et bientôt de son retour parmi nous, que son Saint-Nom soit béni. Alors qu'est-ce qu'ils ont à apprendre, ces apôtres? Eh bien, ils ont à apprendre une chose. Qui est Jésus? Et quand on sait bien qui est Jésus, alors on a découvert le secret. Ils sont en pleine tempête. Vous me suivez? Marthe et Marie sont en pleine tempête. Et où est Jésus? Dans le bateau. Que fait Jésus? Il s'agite, il se tourmente, il menace. Non! Il dort. Et dans le sommeil de Jésus, nous y voyons deux choses. Nous y voyons tout d'abord sa nature humaine, parce que en tant que Dieu, il n'a jamais dormi. C'est écrit. Il ne sommeille, il ne dort. Et là, il dort. Pour montrer à ses apôtres que lui, Jésus, est un homme. Et tout ce qu'il y a réel d'un homme. Un homme a besoin de dormir. Et il dort. Premièrement, Jésus est pleinement homme. C'est-à-dire qu'il peut compatir à ton besoin. Il est passé par ce chemin, le même que tu passes ce matin. Mais en même temps, il leur apporte un deuxième enseignement. Non seulement il est homme, mais il est Dieu. Regardez, il se lève. Il se lève et il dit trois mots. Silence! Tais-toi. Trois mots. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Trois mots. C'est vrai qu'un jour, même un centenier, un officier romain dira à Jésus, Seigneur, j'ai pas besoin de beaucoup de démonstrations. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, le même Jésus est avec nous ce matin. Oui, toi qui traverses ce moment de tempête, réalise que le Maître est là et il t'appelle. Comme il a dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Et au fond, frères et sœurs, s'il dit passons de l'autre bord, c'est qu'on ne va pas se noyer. Non ? Il y a là une promesse. Passons. C'est que ça va passer. Et si ça va passer, c'est que je ne vais pas rester dans la tempête. Et si je ne vais pas rester dans la tempête, je vais retrouver la victoire. Oui, le Seigneur est bon, infiniment bon. Et je vais vous dire pourquoi elle dormait tout en étant un homme. Pourquoi elle s'est levée et a menacé la nature par sa voix. C'est parce qu'il était Dieu et il voulait que ses apôtres le sachent. Ce matin, mes frères et sœurs, puissions-nous dire, Seigneur Jésus, tu es réellement le Fils de Dieu. Si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie. Si tu crois au Fils de Dieu, tu es passé de la mort à la vie. Si tu crois au Fils de Dieu, Satan ne te peut pas te toucher. Parce que le Fils de Dieu t'a racheté et tu deviens la propriété de Dieu. Oh, certains diraient, ouais, mais enfin, monsieur le pasteur, vous exagérez. Ils ont une tempête, ils ont failli mourir. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Ils étaient à 13 dans un bateau, mais on ne monte jamais à 13 dans un bateau, quand même. Bon, heureusement qu'il y avait un 13e qui était là, hein. Sinon, au lieu de dire « Alléluia », ils auraient dit « Glouglou ». Laissons Dieu conduire notre vie, professeur. Quand la tempête vient? Au moment où on ne s'y attend pas. Au moment où tout va bien. Au moment où Marthe et Marie et Lazare. Et d'un seul coup, la maladie frappe. La mort nous touche. Et on s'aperçoit que en réalité, Qui a permis la tempête ? Le Seigneur, Jésus. Il savait très bien. Il n'avait pas besoin d'écouter Evelyne Delia pour savoir le temps, ni les perturbations. Il savait tout. Et il savait ce que les apôtres ne savaient pas. Et il voyait ce que les apôtres ne voyaient pas. Il savait ce que les apôtres ne savaient pas. Il savait ce qu'il allait faire. Et il voyait ce que les apôtres ne voyaient pas, la puissance de Dieu pour le délivrer. Ainsi, ce matin, faisons-lui confiance. Répondons donc à cette troisième question, mes frères et sœurs. Qui contrôle vraiment notre tempête? Qui est à la barre? Qui est au volant de la voiture? Quand j'étais enfant, je ne sais pas si vous avez été enfant. Vous avez été à l'école du dimanche? Moi, je me souviens, à 6-7 ans, à l'école du dimanche, notre monitrice nous avait... Oui, maintenant, ce n'est plus des monitrices, c'est des leaders, je crois. Enfin, notre monitrice nous expliquait et nous faisait apprendre des petits cantiques. Et je me souviens de ce cantique qu'on a appris, je me rappelle, j'avais 6 ans, c'est « Mon auto, Jésus la guide, sûrement, avec lui je file, file, tout en avant, je m'arrête. » Est-ce que Jésus guide ? L'Éternel est mon berger. Et vous avez remarqué, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a dans la main, le berger ? Il a un bâton. Tiens. Pour taper sur ses brebis. Pour les protéger. Le bâton, c'est pour la tête du serpent. Et qu'est-ce qu'il a encore dans sa main ? Une roulette. C'est pour les ramener dans le droit chemin. Donc dans sa main, il y a ce qui nous garde, il y a son amour qui nous ramène. Le maître est ici, il te demande. Berger, brebis égaré, qui doute que le Seigneur a les yeux sur toi. Eh bien, tu ferais bien de lire chez toi Ésaïe chapitre 40, verset 1. Oh, il est écrit, pardon. Oui, Ésaïe chapitre 40, verset 27, il est écrit. Dieu dit, « Pourquoi dis-tu Jacob ?» Pourquoi dis-tu, Israël, Dieu ne s'aperçoit pas de mes problèmes? Pourquoi tu dis ça? Et le prophète continue, dit, mais tu ne sais pas que je suis l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, qui a créé le ciel et la terre, et ce créateur du ciel et de la terre, c'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est ton Sauveur, c'est ton ami, et celui qui veut que tu sois vainqueur aujourd'hui. Terminons avec cette pensée que j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs, c'est non seulement le Seigneur contrôle, mais je pense que il calme et il sait calmer votre tempête ce matin. Écoutez bien. Seigneur, entendez-vous la prière ? Seigneur, non pas nous chantons, mais Seigneur, nous périssons. Mes frères et sœurs, les apôtres ont appris. Ils ont appris ceci. C'est que pendant qu'ils dormaient, eux s'épuisaient, les apôtres s'épuisaient à essayer de trouver des solutions sans en trouver. Et comme ils se sont épuisés sans trouver de solution, ils se sont tournés et ils ont fait la dernière chose de ce qui devrait être la première. Ils ont prié. Et mes frères et sœurs, pour sortir de la tempête, il n'y a qu'un sujet, il n'y a qu'un moyen, la prière. Regardez, dès qu'ils ont prié, Maître, Maître, nous périssons. Vous avez remarqué que la prière a été efficace? Lorsqu'ils se sont tournés vers le Seigneur, la prière a été réellement efficace et Dieu est intervenu par ces trois mots, silence, tais-toi. Et quand Marthe et Marie, et Jésus a attendu que Marie soit là, et il a pleuré avec elle, il a attendu que Marthe et Marie soient là pour leur dire ce que j'ai à te dire. Où l'avez-vous mis ? Et ils ont répondu, Marthe comme Marie, viens et vois. Le maître ce matin t'appelle. Réponds-lui, Seigneur, je ne veux pas te cacher, je ne vais pas jouer au chrétien formidable et heureux. Seigneur, Je vais te dire ce qu'il y a là. Hein. Voilà, je vais te montrer mon sépulcre qui sent mauvais, qui pue. Oui, Seigneur, regarde. Soyez vrais, mes frères et sœurs. Ne jouons pas le jeu du chrétien heureux alors que là-dedans, nous sommes malheureux. Non, rejetons cette image du chrétien joyeux qui devient chez lui impossible et criant, soyons vrais, car la vérité nous rendra libres. Et Jésus aime ce qui est vrai. Tu es triste, eh bien tu le dis. Tu as un poids sur le cœur, tu le dis. Le Seigneur te demande justement ça. Le Maître est là et il te réclame. Il te réclame pour que tu lui dises, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, on sait que Dieu va t'exaucer. Seigneur, je ne comprends pas. Dites-le. Et vous allez voir ce qui va se produire. Le Seigneur, lui dit la parole de Dieu, s'est tourné vers le tombeau de Lazare et il s'est adressé, comme tout à l'heure à la mère, là il s'adresse à la mort en disant « Lazare, sors !» Deux mots. Curieux, hein ? Deux mots. Et il suffit de deux mots pour que la mort craque. Les frères et sœurs, on est habitués à la mort. Malheureusement, tous on va y passer, un jour ou l'autre, si le Seigneur n'est pas revenu. Et on a l'impression qu'elle a toujours le dernier mot. D'ailleurs, dans tous les villages de France et du monde entier, il y a un chant à sa gloire. C'est H-A-M-P. Ce chant de la gloire de la mort, c'est le cimetière. Et il y a de nouveaux cimetières. Et jamais personne n'en est ressorti, sauf un. Jésus de Nazareth. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et il est ton sauveur. Ton Seigneur. Alors, ce matin, réalise, mon frère, ma sœur, que si le vent souffle autour de toi, si le malheur tourne autour de toi, si les mauvaises nouvelles du médecin ou de la clinique sont là autour de toi, c'est autour de toi. Rappelle-toi que si le vent souffle autour de toi, Jésus est en toi. Et s'il est en toi, tu as l'espérance de la gloire. C'est ce que le Seigneur veut nous permettre d'avoir. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un monde hostile. Le monde est hostile et de plus en plus hostile. Même le monde animal est de plus en plus hostile, se dévore, se mange. Les hommes se battent et dès qu'ils ont des armes, dans le temps on parlait de l'homme préhistorique qui avait des morceaux de bois et des pierres, aujourd'hui ils ont des armes atomiques pour détruire le monde et c'est entre les mains des hommes, peut-être. Mais notre vie est entre les mains de Dieu. Et celui qui a le dernier mot, frères et sœurs, celui qui a la dernière parole, c'est le Dieu vivant et vrai qui a dit, au son de la dernière trompette, à un certain moment, la parole de Dieu nous dit que Dieu va intervenir. La mort n'a pas d'avenir. Seule la vie a de l'avenir. Voulez-vous que nous ayons un instant de prière ? Frères et sœurs, Jésus est arrivé à Béthanie et il a dit à une femme qui pleurait et qui préférait rester chez elle que de se traîner vers Jésus. On lui a dit, Marthe lui a dit, le Maître est là, il te demande. Je dirais même mieux, le Maître est là et il t'appelle. Je suis certain que ce matin, parmi nous, avant de prendre la Sainte Cène, il y a des frères et sœurs qui passent par l'orage, qui ont tendance à dire « Nous périssons !» ou « Si tu avais été là, il n'y aura pas de mort ici. » Ce matin, est-ce que tu veux venir vers lui ? Est-ce que tu veux venir vers lui ? Peut-être tu passes pour un chrétien ou une chrétienne spirituelle, ou tu es peut-être même un ancien de l'Église, pas forcément un ancien au sens de l'enseignement, mais un ancien, il y a longtemps que tu viens à l'Assemblée. Ça t'empêche pas d'avoir mal, hein. Mais mon Dieu, s'il nous a chargés, et s'il a mis sur le cœur du pasteur gentil, et sur le mien, sans savoir, les mêmes mots, c'est parce qu'il a vraiment quelque chose à faire maintenant. Seigneur, j'ai voulu dire ce que tu dis dans ta parole quand Marthe a dit à sa sœur, lève-toi, le Maître est là, Il tapait. Je vous laisse sur cette parole. Je laisse mon pasteur, le frère, mon collègue, pasteur Claude Gentil de continuer. Gardez gravés ces mots. Le maître est là. Il tapait.